Ne dites surtout pas à Frédéric que le Caire n'est qu'une affaire de femme. La parentalité, c'est à deux que ça se construit, et c'est son quotidien de papa qu'il partage à l'envi à ses près de 18 000 abonnés sur Instagram. De l'allaitement, à la place du conjoint, en passant par le postpartum, avec Fred, on aborde tout et on casse les tabous. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Normand. Alors en guise de petite introduction, je tiens à rassurer tout de suite les auditeurs qui ne me suivraient pas sur Instagram ou d'autres réseaux, si vous lisez le titre de cet entretien. Non, je n'ai pas baissé en qualité, je n'interviewe pas qu'un vieux machin, j'interviewe un vieux machin bidule. Bonjour Frédéric Fourillon.
Salut Brian.
Comment tu vas ?
Écoute, je vais très très bien.
Je suis ravi de te recevoir. Alors, on a fait bien sûr une petite intro, donc les auditeurs savent déjà de quoi il en retourne. Tu es créateur de contenu pour les familles. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est la question, en fait, que c'est ce que j'ai abordé dans mon préambule. Moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi ce pseudo?
Alors, pourquoi ce pseudo? En fait, comme n'importe qui, j'ai eu envie un jour d'avoir un compte Instagram comme un compte Facebook quand c'est sorti, et j'ai fait comme tout le monde. Et sur ce compte Instagram, j'ai appelé ça vieux machin bidule parce que je suis un grand passionné de vintage. J'adore les vieilles voitures. D'ailleurs, j'en ai une. J'ai une deux chevaux de 1976. J'adore les vieilles tasses bien colorées, les trucs pop, les trucs orange, les trucs, voilà, vraiment les vieux machins et les vieux bidules. Et donc, sur ce compte, je mettais, plein de photos de tout ce que j'ai. C'est même pas des collections parce que je les utilise tous les jours, ces vieux objets. Puis voilà, avec le temps, ce compte est tombé un peu dans l'oubli, et un jour j'ai eu une idée, c'est de m'en servir, mais pour faire autre chose.
Ouais, mais on va retracer un peu avec toi, si tu le veux bien, le fil chronologique par rapport à ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire que quand tu as créé ce compte Instagram, tu ne faisais pas du tout de contenu pour les familles.
Absolument pas, non, pas du tout. Je travaillais à l'hôpital public, c'était vraiment comme ça. Il y avait quoi, ma mère qui me suivait, deux cousins, deux mecs qui sont arrivés là par hasard, mais c'était tout.
Et alors, quand, parce qu'on va continuer de tirer le fil, quand as-tu eu ce déclic? Quand as-tu décidé de passer, en fait, à la création de contenu spécifiquement pour les familles? Qu'est-ce qui t'a touché? D'où est venu ce déclic?
Ça s'est fait naturellement, en fait, et un peu par hasard. En fait, ma fille est née au mois d'août 2018.
Oui.
Et l'année d'après, en 2019, en juin, donc elle avait 10 mois à peu près, on part en vacances dans le sud de la France, à Nîmes plus précisément. Et donc, c'est beaucoup de route quand même depuis la Normandie. On roule toute la nuit. Et une fois passé Lyon, on est vraiment là sur l'autoroute du soleil. Hein. On s'arrête, il est 4h du matin, on est sur une aire de repos, on est à la hauteur de Montélimar à peu près. Et au milieu de cette aire de repos, vide de toute âme, de toute personne, ma femme nourrit notre fille et elle lui donne le sein, l'allait. Et je sais pas pourquoi ce moment-là m'a attendri, m'a touché, m'a dit dans ma tête, j'ai quand même une chance extraordinaire d'avoir déjà les membres de ma famille en bonne santé, de voir que ma femme se donne beaucoup pour notre enfant. Je vais la prendre en photo. Pourquoi? Parce que je voulais garder ça en souvenir. Me dire un jour, je montrerai à ma fille Rosalie, voilà maman ce qu'elle faisait, te donner le sein partout où tu voulais quand t'avais faim. Comme nous on a faim, on mange, et toi tu avais faim, tu mangeais. Et puis, pendant ces vacances-là, je me suis dit, cette photo, faut quand même que j'en fasse quelque chose. Et je vais la mettre, tiens, sur Instagram.
Instagram, par exemple.
Parce que Instagram, Facebook, les gens me connaissent, bon, c'est ma famille. Je me suis dit, sur Instagram, ce qui serait intéressant sur Instagram, en même temps que je poste cette photo, c'est de me dire, je vais parler... moi, de ma position de père, de conjoint non allaitant et qui accompagne sa femme qui allaite. Donc, c'est-à-dire avec tout ce qui va autour. Et je fais un post. Et je le publie. Et je mets des hashtags. Parce que un jour, j'ai dû entendre dire qu'il fallait mettre des hashtags. Donc, je mets des hashtags.
Les fameux.
Et là, d'un seul coup, en quelques heures, en une journée, en 24 heures, je reçois plein de demandes enfin, il y a plein de gens qui s'abonnent à mon compte. J'avais laissé en mode public, hein.
Ouais.
Il y a plein de gens qui s'abonnent à mon compte avec des mères. qui me laisse des commentaires en disant « C'est génial, un père qui prend la parole sur ce sujet. » Et là, je me suis dit « Bah, c'est ça, en fait. C'est ça qu'il faut que je fasse. » C'est de me dire « Je vais partager mon quotidien sur... » Alors, à la base, c'était sur l'allaitement, mais après, ça s'est diversifié. Hein. On a écarté le champ des possibles sur tout ce qui touche à la parentalité et à la famille, avec mon quotidien, alors sans jugement, sans stéréotype. Il y a plein de choses que j'ai éliminées pour vraiment être presque neutre, finalement.
C'est-à-dire?
Ah je suis pas rentré dans les clichés.
Oui.
Je suis pas rentré dans le pour ou le contre, genre contre le biberon et pour l'allaitement ou vice versa. Non, c'est vraiment de l'information. Et c'est pas Et c'est pas un compte où je donne des conseils. C'est un compte où je propose du contenu. Les gens viennent le piocher. Si ça les intéresse, ils le prennent. Si ça les intéresse pas, ils filent. Et ça, c'est pas grave. Moi, c'est OK pour moi. Je suis pas là pour leur dire, faut faire ça. Les parents, justement, ont besoin de se dire, voilà un compte qui nous donne de l'information. Ça a l'air intéressant. Ça m'intéresse moins. Et ben voilà. Si ça t'intéresse un petit
Mais
peu.
Alors, par exemple, comment tu te places vis-à-vis, par exemple, de professionnels de santé en tant que personne qui donne des conseils? Enfin, quel est ton placement? À qui on s'adresse, en fait?
En fait, moi, je suis créateur de contenu. Donc, je crée du contenu où dans ce contenu, c'est surtout de l'information. Alors.
Où tu vas aller chercher?
Vous allez me dire, elle est bonne, elle est mauvaise, l'information.
Voilà. À l'heure actuelle, où tu vas chercher cette information?
Alors, moi, j'ai la chance d'être marié avec une sage-femme.
Oui.
Donc, qui est professionnelle de santé. Qui a fait médecine, qui a fait des longues études.
Ouais.
Et donc déjà, j'ai déjà une bonne source de savoir. Et avec le temps, eh bien, j'ai créé mon réseau avec d'autres parents et aussi avec des professionnels de santé qui sont sur Instagram, des vulgarisateurs, par exemple. Et c'est vrai que quand je fais un post, alors je fais pas un post rébarbatif, un post qui écrase d'informations, non. Je dis juste, voilà, je te prends un exemple au hasard, vos enfants seraient mieux dans des chaussures souples que dans des chaussures dures. Pour ça, je vous conseille d'aller voir tel professionnel. Ils vont vous donner de la bonne information, l'information importante, vérifiée, parce que c'est leur job. Moi, mon job, c'est de mettre ma visibilité presque à leur service. Et je fais pas ça pour de l'argent ou gratuitement. Je fais ça parce que c'est du bon sens. Moi, quand je suis devenu père, tout ça aurait existé de cette manière-là. Ça aurait été plus fluide pour moi. Et donc, l'idée, c'est de dire, je vais produire ce que moi, j'aurais aimé voir quand je suis devenu papa.
Mais bien sûr, mais justement, en fait, quand tu crées ce contenu en 2018 et que justement, tu le dis, tu reçois plein de messages, sans doute parce qu'on doit se dire, un père qui poste sur ces sujets, c'est forcément pas banal, surtout encore plus, peut-être plus encore en 2018 que maintenant. On dit être mère, c'est un métier à plein temps. Est-ce que père, c'est aussi un métier à plein temps?
Oui, c'est un métier à plein temps. C'est un métier à plein temps, surtout quand on veut s'investir, quand on veut déjà se détacher. Excuse-moi.
Se détacher
de l'image qu'on a souvent des pères, de l'image patriarcale, de l'image du chef de famille. Et quand on veut enlever tout ça.
Et tu veux t'en détacher, toi.
Quand tu veux t'en détacher, ça demande beaucoup de travail. Pourquoi? Parce que t'as été toute ta vie construite.
Totalement.
Donc il y a déjà un travail entre guillemets. Je veux pas faire ma Sandrine Rousseau, mais de déconstruction. Clairement. Tu essayes de revoir les choses, de comment tu pourrais faire autrement. D'où l'importance de bien s'informer. Alors moi j'ai beaucoup lu, j'ai écouté. Il y a pas beaucoup de podcasts maintenant, c'est plus à la mode, mais ouais. J'ai beaucoup lu, j'ai regardé beaucoup. Il y avait quelques influenceurs quand même qui déjà travaillaient sur le sujet. J'étais dans des conférences et tout ça. Et toutes ces petites choses-là m'ont aidé à devenir le père que je suis. Mais c'est un job à plein temps. Et je m'en suis rendu compte encore plus parce que moi, j'ai eu un congé beaucoup plus long que la moyenne.
On y reviendra. Mais justement, en fait, dans la suite de la question que je voulais poser, quand tu parles de déconstruction, quand tu déconstruis quelque chose, en fait, il faut construire derrière.
C'est ça.
C'est-à-dire, tu me parles de déconstruction, c'est très bien, on serait tenté de te dire, mais comment tu arrives à construire derrière une alternative? Et quelle est l'alternative?
Alors déjà, je pense qu'il faut poser une base, c'est qu'est-ce que moi, mon père m'a apporté? Revenir un peu à l'essentiel, c'est qu'est-ce qui m'a apporté? Qu'est-ce que m'a apporté les hommes de ma vie? Mon père, mon grand-père qui m'a élevé, parce que mes parents m'ont pas mis chez une nounou, ils m'ont mis chez mes grands-parents, et j'en ressors très fort de tout ça. Et c'est toutes ces personnes, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté dans ma construction personnelle? Qu'est-ce qui est, selon moi, bon et qu'est-ce qui est à jeter, entre guillemets, ou en tout cas à effacer, ou à ne pas reproduire? Ça, c'est déjà un gros travail. Et après, il y a tout ce qui se fait, se dit sur les hommes, en règle générale, les pères, en règle générale,
oui.
Tous les clichés qu'on entend. Maintenant, on parle beaucoup de charge mentale, mais moi, quand j'ai commencé en 2018, la charge mentale, c'était pas un mot commun,
Mais
aussi de, voilà. Et c'est vrai que je me suis dit, finalement, je me suis pas détaché de grand chose de mon père.
Ouais.
Mon père, il y a des choses qu'il ne faisait pas, qu'il ne fait toujours pas d'ailleurs. Et moi, je trouvais ça déjà, à la limite, pas trop clean, pas trop normal. Quand je dis qu'il ne faisait pas, c'est par exemple, voilà, c'était pas, il ne courait pas
les tâches ménagères.
Derrière le ménage, des choses comme ça.
Ouais.
Alors que, pour tout le reste, il cuisinait, il nous emmenait aux activités, machin truc. Mais c'est pas lui qui gérait les rendez-vous médicaux. C'est pas lui qui prenait rendez-vous chez le pédiatre. C'est même pas lui qui me changeait mes couches. Moi, ma mère me l'a appris il y a quelques mois, quelques années. Elle m'a dit, mais tu sais que ton père n'a jamais changé de couche.
Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend, parce que je le redirai, je l'ai dit en intro, mais j'en profite pour le redire. Tu as un podcast.
Mm-hmm.
Et c'est L'Espoir fait rire.
C'est ça.
Avec un de tes invités, tu me pardonneras, je ne sais plus le nom, il est pédiatre, j'ai oublié son nom. Avec Jules Fougère. On avait appris justement, enfin moi ça m'avait fait beaucoup rire, qu'en fait, bah, bien souvent, les papas en fait ne connaissaient pas les problèmes de leur enfant et qu'il fallait appeler
sa femme. C'est surréaliste. Le nombre de pères qui arrivent aux urgences, et limite ils demandent leur date de naissance à leurs enfants, parce qu'ils ne la connaissent pas.
Ah oui.
Ils ne connaissent pas le nom du pédiatre, qu'ils ne connaissent pas s'il a des allergies, s'il a des antécédents. Ce sont, aux yeux de beaucoup, des détails. Sauf qu'en fait...
C'est une construction culturelle.
C'est ça, c'est ça. Sauf que, rajouter tout ça sur la charge mentale des femmes, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et, tenir l'agenda, s'occuper de préparer les vacances, préparer les valises, ne pas savoir ce qu'il y a dedans, mais pas savoir où sont ses affaires. Enfin, il y a un moment... Comme je dis souvent, les femmes qui ont décidé d'être mères, elles ont décidé d'être mères de leurs enfants, pas de leur mari.
Mais tu sais que c'est... Je veux pas faire de politique à deux francs six sous, mais c'est quand même important d'en parler. Tu sais que c'est là un des arguments fondateurs des ultra-conservateurs, notamment aux États-Unis, de dire que être mère de famille, c'est tellement un job qu'on demande tellement qu'en fait, un homme n'est pas capable de faire ça.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu leur répondrais?
Alors, moi, je leur répondrais qu'effectivement, moi, quand je, avec toutes les personnes que je connais, que j'ai rencontrées, mon épouse ou moi-même, quand je vois tout ce qu'elle produit pour notre famille, je me dis, je crois que je n'arriverai jamais à en produire autant. Pas parce que je ne veux pas, mais c'est parce que je ne peux pas, en fait. Parce que elle aussi, il y a sa construction derrière.
Ouais.
Comment elle a été élevée, avec ses parents, avec sa mère. Et tu vois? Et effectivement, comme tu dis, voilà, les ultra-conservateurs, alors je suis pas un ultra-conservateur, loin de là, mais je me dis, effectivement, on a tous un rôle à jouer, je pense. Tous.
Mais est-ce que ce rôle-là, il serait défini par avance, par coutume, par convention, ou est-ce qu'on peut apprendre à se le construire?
Alors moi, je pense qu'on peut apprendre à se le construire. Et tu vois, l'exemple de apprendre à se construire, c'est que tout simplement, ce que je fais aujourd'hui, devant les yeux de mes enfants, de mes deux filles, c'est quelque chose qui pour elles est normal. Donc c'est-à-dire que quand elles deviendront adultes, qu'elles rencontreront quelqu'un, quelqu'une, elles se diront, ça c'est ok. Et ça, c'est pas OK. Pourquoi? Parce que moi, chez moi, mon père fait à manger. Mon père passe l'aspirateur. Mon père était capable de prendre des rendez-vous pour nous. Mon père était capable de gérer une soirée complète. Mon père ne nous gardait pas. Mon père était mon père. Il faisait son rôle de père dans sa globalité. Il était capable de nous habiller.
Comment tu définis un rôle de père?
Pardon?
Comment tu définis un rôle de père? Difficile, les communistes.
Ah bah, j'ai envie de te dire, c'est une mère avec des testicules. Non, mais, si tu veux. Le rôle du père, pour moi, Il est aussi important que le rôle du maire, le rôle de la mère, pardon. Parce que le père, alors, comment t'expliquer ça?
Vas-y.
Je trouve, la mère apporte quelque chose. Le soutien maternel, l'aspect maternel est toujours très rassurant et tout ça. Et pendant des siècles et des années, l'aspect du père était moins là-dedans. C'était plus dans le père, c'est l'exemple. Le père, c'est le chef de famille, c'est celui qui dirige, c'est celui qui aussi parfois serre la vis, tu vois, c'est le rôle du méchant. Et moi, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est que je suis au même niveau que mon épouse. On est sur la même longueur d'onde, sur tous les sujets.
Hein? Tout le temps?
Quasiment.
D'accord.
Quasiment tout le temps. Et quand on n'est pas d'accord, on se règle pour les comptes devant les enfants.
Ouais.
Mais c'est quand même très, très rare. C'est quand même très, très rare. On est souvent d'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a un rôle différent du père que celui de la mère, mais s'il y a un rôle qui est différent pour le père, et si vraiment c'est la seule chose différente, c'est que ce qu'il produit aujourd'hui aura une incidence sur ce qui va se passer plus tard. Qu'il ait un garçon ou qu'il ait une fille. Parce que s'il a une fille comme moi, le père va devoir l'accompagner, l'éduquer dans ce qui est OK, ce qui est pas OK, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et pour le petit garçon, bah lui aussi, il y a un petit rôle de déconstruction dans tout ça. Et de dire, ça c'est OK et ça c'est pas OK. Et tu vois, c'est pour ça, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence finalement sur le rôle du père ou de la mère. Juste, Une différence, c'est que chez certaines mères, ces choses-là sont innées ou se travaillent aussi, mais le rôle du père, c'est vraiment de voilà, pour le coup, si on veut revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, oui, je suis un exemple, mais un bon exemple.
Oui, parce que finalement, dans le prolongement de ce que tu dis, c'est qu'en fait, finalement, je sais pas comment dire cette phrase, de toute façon, je vais prendre mon temps pour la dire, mais finalement, les enfants suivent un exemple. Ils ne suivent pas ce que le père ou la mère vont dire, ils suivent l'exemple.
C'est ça. C'est des miroirs. Les enfants, c'est des miroirs, c'est des éponges. Et ils analysent, ils regardent tout ce que nous faisons au quotidien. Moi, je suis fier de dire, et j'espère qu'un jour, mes filles me diront, oui, nous, notre père à la maison, il faisait autant que maman. Parce que souvent, c'est que les gens ont tendance à dire, moi, je peux pas me plaindre, mes parents, j'ai manqué de rien. Mais c'est pas un problème de manquer de rien, en fait. C'est pas matériel, là. Là, on parle vraiment de l'émotionnel, de la construction psychologique d'un enfant. C'est, je vais lui apporter de la sécurité affective, je vais lui apporter des repères fixes, des repères qui l'aideront toute sa vie. Parce que aujourd'hui, quand je dis à ma fille, à la sortie de l'école, je suis pas comme les autres parents, moi. Moi, je dis jamais à ma fille, t'as bien travaillé? Ou je lui dis, qu'est-ce que t'as appris? Non. Première chose que j'ai à ma fille quand elle sort à l'école, je fais, est-ce que t'as fait des erreurs aujourd'hui?
Oui.
Alors là, en général, s'il y a des parents autour, ils me regardent en disant, oula, il sort d'où celui-là? Mais finalement, dans la construction, je lui demande si elle a fait des erreurs. Quand elle me dit oui, et je lui dis, d'accord, mais qu'est-ce que t'as appris de tes erreurs? J'ai appris que, effectivement, pour tracer un trait droit, c'est mieux d'utiliser une règle. Ok, super. Et c'est tout.
Mais justement, est-ce qu'on est un peu dans une société où on n'autorise pas l'échec?
De toute façon, on n'autorise pas l'échec. On est toujours dans la performance. On est toujours dans la justification. Il faut que les enfants, tu sais, il y a plein de parents qui se plaignent. Mais mon gamin, quand il sort à l'école, il me dit rien. C'est parce que peut-être que je vais pas juger, mais peut-être que tu y prends mal. Peut-être que tu poses pas les bonnes questions. Peut-être que tout de suite, dès la sortie de l'école, tu lui mets une pression sur qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a produit? Est-ce qu'il a bien travaillé? Est-ce qu'il a été sage? Alors que c'est pas ça. Ma fille part le matin à l'école, quand je la laisse à l'école, je lui dis pas, travaille bien. Je lui dis, amuse-toi. Éclate-toi. Et quand elle sera, parce que là, elle est en grande section maternelle, et quand elle sera au CP, je continuerai. En plaise ou en déplaise au professeur. Pour le moment, ça leur plaît. Parce qu'ils se disent, voilà, aucune pression.
Je vais te faire une confidence et je sors un peu là du rôle du mec qui pose des questions. Ce que j'ai toujours reproché au système scolaire, en général, indépendamment de ce que j'ai vécu moi-même, c'est toujours t'enseigner, en fait, dès le plus jeune âge, volontairement ou pas, c'est d'ailleurs ça. Par analogie, l'esprit de compétition en permanence.
Ah oui.
Comment veux-tu qu'il en soit autrement, où en fait, on te met tout de suite dans un drive où tu vas arriver aux 35 heures semaine, en fait, voire même en seconde, je faisais plus que 35 heures la semaine, d'ailleurs. On en reparlera, d'ailleurs, des questions d'emploi du temps à l'école, mais je veux dire...
Moi, tu vois, quand ma fille rentre à l'école et qu'elle me dit « je suis arrivée première à la course. » Ok, ça t'a apporté quoi? Tu étais fière? Est-ce que, d'un point de vue hiérarchique, t'es monté dans les niveaux, t'es plus fort que la maîtresse? Tu vois, c'est ça.
C'est que soit je pense que soit on arrive à une certaine forme de gratification par un énorme travail, et là je pense que tu peux ressentir une certaine forme de fierté, mais je pense que si sur le coup, ce qu'on appellerait de la gratification immédiate, t'arrives directement première à quelque chose, tu ne peux pas ressentir pleinement le bonheur d'eux, en fait. Je pense que en fait, faut pas oublier que derrière tout aspect de compétition, enfin selon moi, il y a le travail, en fait.
Ah, mais bien sûr.
C'est le travail qui permet
mais
de...
Mais bien sûr. Il n'y a qu'à voir les sportifs de haut niveau. Quel est le but à la fin?
C'est ça.
Toi, moi, je suis un grand fan du rugby. J'ai joué au rugby. Et j'ai arrêté maintenant, il y a quelques années, pour mes gros problèmes de santé. Et aujourd'hui, je pourrais presque reprendre le rugby. Mais s'il y a une chose qui me freine, c'est simplement la compétition. Moi, j'ai pas envie de faire la compétition, en fait.
T'as envie de t'amuser, en fait?
J'ai envie de m'amuser. Et c'est pour ça que inscrire mon enfant dans un club sportif, alors c'est pas que ça me gêne, mais je me dis, il y aura toujours cet esprit de compétition. Il est pas là pour s'amuser, il est pas là pour se défouler, il est là parce qu'il y a un objectif à la fin.
Est-ce que pour une meilleure société, il faudrait arrêter la compétitivité?
Je pense que oui. Et pour beaucoup de choses.
C'est-à-dire?
Pour tout, pour les enfants, pour les adultes. Je veux dire, à quoi ça mène, même dans une entreprise aujourd'hui, à monter les gens les uns contre les autres, à qui sera le meilleur vendeur de fenêtres, qui ça. Oui, effectivement, c'est un peu la carotte qui fait avancer le l'âne, mais je vais te dire, au-delà de ça, si c'est pour finir en burn-out ou 6 mois et se foutre la rate au courbouillon, je suis pas sûr que la compétitivité y ait vraiment un intérêt.
On en a d'ailleurs. Petite pause de l'augmentation du burn-out. On en a déjà parlé dans le podcast Normand et on en reparlera plus tard parce que c'est justement des grands sujets qui est la cause de cet excès de compétitivité.
C'est comme ça.
Tu travaillais à l'hôpital.
Oui.
Avant, tu faisais de la manutention, c'est ça?
Alors, j'étais d'abord aide-soignant.
J'étais d'abord aide-soignant.
J'étais d'abord aide-soignant jusqu'au 1er mai 2017.
Ouais.
Le jour de la fête du travail, une journée de plus à l'hôpital public où il manquait du personnel, où on était en retard sur notre matinée de travail, et dans la précipitation et en voulant bien faire les choses, j'ai voulu aider un patient, et quand il s'est relevé, ce patient-là a fait une hypotension, donc sa tension artérielle a baissé subitement, donc il s'est écroulé dans mes bras.
Ouais.
Il s'est écroulé sur moi, il faisait 130 kilos, et là, ça a été le début de mes problèmes de santé.
D'accord.
J'ai jamais eu de problème de santé avant ça. J'ai jamais eu mal au dos. J'ai travaillé de nombreuses années à l'hôpital. J'ai travaillé au SAMU. J'ai travaillé en psychiatrie adulte avec des gens qui étaient hospitalisés contre leur gré. Et là, j'étais dans un service de médecine au CHU. Et voilà. C'était la fin. C'était la fin de ma carrière d'aide-soignant. Je le savais pas ce jour-là, mais c'était la fin. Ouais.
C'était la fin de ta carrière d'aide-soignant. Et après, donc ça, tu as été déclaré en incapacité ou...
Alors, j'ai été déclaré inapte à la fonction et au poste d'aide-soignant. Donc, je pouvais plus être aide-soignant. Je pouvais même plus soulever 10 kilos. Hein. C'était fini pour moi. Ça a été un long travail d'accepter que je ne pourrais plus être aide-soignant parce que c'est un métier que j'aimais beaucoup.
Ouais.
C'était une vocation.
Ouais.
Moi, je fais partie des gens, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans, où moi, j'ai mes parents qui étaient ouvriers dans le textile. Et plus exactement, il confectionnait les costumes des employés de Disneyland Paris. Et un jour, l'usine qui est basée en France est partie en Tunisie. Ils avaient le choix soit de partir en Tunisie, soit de rester en France. T'imagines bien qu'ils sont restés en France. Et donc, tous les deux se sont retrouvés au chômage et licenciés économiques. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Alors, j'ai manqué de rien. J'ai jamais été triste ou on n'a pas mangé des patates à la bougie parce que à la lumière de la bougie parce qu'on n'avait plus de thunes. Non. Mais dans mon inconscient, je me suis dit, Fred, quand tu vas choisir ta voie, parce que c'était aux alentours de ma troisième, tu vois. Donc c'est le moment où tu choisis ce que tu vas faire dans ta vie.
Ce fameux stage.
Ouais. Moi, j'avais envie d'être maçon ou plombier.
Pourquoi?
Je sais pas. Ça me plaisait bien. l'idée me plaisait bien.
Ouais.
Et à l'époque, on m'a répondu, faites pas dans l'artisanat, ça a pas d'avenir. Travailler dans la fonction publique, dans la santé, ça sera très bien. Et c'est vrai qu'effectivement, dans l'idée de ce que je me faisais à l'époque de la fonction publique, c'est la sécurité de l'emploi, et donc ce que mes parents n'ont jamais eu. Et je me suis dit, voilà, au moins, je fais pas ça pour l'honneur, mais pour dire, au moins, un problème en moins qu'ils n'auront pas à eux gérer, le problème de trouver un emploi pour leur enfant. Et au final, avec le recul, c'est une belle connerie.
Oui. Mais justement, je voudrais qu'on parle aussi de ce sujet-là, parce que c'est un sujet que tu connais, en fait, de l'intérieur. C'est le sujet, en fait, du manque de moyens à l'hôpital public. C'est quelque chose que tu as été confronté.
Moi, j'ai été confronté
De
nombreuses années, à plusieurs reprises, dans plusieurs services différents et durant le Covid. Je pense que là, on est sur un palier et même une chute du service public hospitalier. Moi, en tout, j'ai passé 14 ans à l'hôpital.
Ouais.
Et en 14 ans d'hôpital, on va pas se mentir, l'hôpital public n'est pas une entreprise, elle n'est pas rentable.
Et elle n'a pas vocation.
Elle n'a pas vocation à le faire. Mais le problème, c'est qu'on veut la diriger de cette manière-là. Et ça passe par quoi? Ça passe par plein de choses. Ça passe par des coupes budgétaires, ça passe par fermer des services, ça passe par, on remplace une infirmière par deux aides-soignants. Parce que là, on compte même plus en diplôme. Là, on compte en personne sur place.
C'est ça.
Il y a beaucoup de choses, moi, qui, avec le temps, ont commencé à me paraître folles, dingues. Et je me souviens, je sais pas, on va dire, au bout de 8 ans d'aide-soignant, je me suis dit, c'est pas possible, je pourrais pas faire ça toute ma vie. Il y a un moment. Je vais faire autre chose. Parce que je suis en train d'assister
à la mort de l'hôpital public.
Non mais c'est la mort du petit cheval. On est en train de détruire un système de santé qui est unique au monde, que d'autres pays nous envient, et on est en train de tout détruire. Je donne toujours le même exemple, c'est aujourd'hui, vous avez mal au ventre, vous allez voir votre médecin traitant va vous faire une prescription. Cette prescription, vous allez avoir des médicaments, peut-être. Les médicaments, vous n'allez pas les payer. Sur une autre prescription, il va vous prescrire un scanner que vous n'allez toujours pas payer. Ce scanner, vous allez le passer. Ce scanner va être lu par un médecin. Vous ne payez toujours rien. Ce scanner, qu'est-ce qu'il va dire? Vous avez une tache sur le foie. On va t'envoyer faire un IRM que tu ne payes toujours pas. Là, on te dit, vous avez un cancer. Le monde s'effondre. Mais tu ne payes toujours rien. Débute alors soit de la radiothérapie, soit de la chimiothérapie. Et tu n'as toujours pas déboursé un euro. Moi, je sais combien ça coûte. Tout, combien ça coûte. Une journée d'hospitalisation, combien ça coûte. Une seringue de chimio, combien ça coûte. Ce sont des prix qui sont fous. Moi, je me souviens.
Et ça serait quoi pour ce que tu viens de dire?
Ah bah, par exemple, je te prends un exemple tout bête. Quand je travaillais dans un service de médecine à l'hôpital, la journée coûte 1500 euros à la sécurité sociale. C'est une journée dans un service de médecine classique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un service de médecine technique. Mmh. On n'est pas sur un service de réa. On n'est pas sur un service d'urgent. Il n'y a pas de technicité. Là, à la limite, on branche l'oxygène, on lui met une perf. Voilà, c'est pas très technique.
Donc ça, c'est 1500 euros.
Ça, c'est 1500 euros. À l'époque, quand je travaillais au SAMU, alors maintenant, il y a plus de 14 ans, faire décoller un hélicoptère pour aller chercher quelqu'un sur un accident, juste le faire décoller, ça coûtait 2000 euros. Ensuite, c'était 7 euros la minute de vol. Ouais. Et après, c'était 2000 euros quand il se posait. Et là, tu te dis, tu ne débourses rien. J'ai de la famille qui habite au Japon. Un oncle qui habite maintenant depuis plus de 40 ans. Et quand il revient en France et qu'il m'explique comment ça fonctionne là-bas, mais je me dis, mais la chance qu'on a.
Oui.
Parce que eux, c'est une journée de maladie. Eh ben, c'est une journée où ils vont devoir rattraper leur journée ou alors ils vont avoir un jour de vacances en moins dans l'année. Aller à l'hôpital, eh bien, il faut prendre une ambulance qu'ils vont payer et arriver à l'hôpital, ils payent. Parce que c'est comme ça. Et tu vois, de savoir ça, et aussi parce que j'ai beaucoup voyagé dans d'autres pays, et je me suis dit, putain, on a tout ce qu'il faut, mais on est en train de détruire les trucs. Alors,
est-ce qu'il y a un aspect volontaire à la destruction du service public ou est-ce que c'est quelque chose de conjoncturel? Alors,
déjà clairement, on peut pas jeter la pierre au ministre actuel. On pourrait l'acheter. Bah, non mais on peut pas tout. C'est toujours le même problème. C'est dans l'évolution de notre pays, on jette la pierre à celui qui est là, qui est présent. Mais il faut quand même remonter beaucoup plus loin. Parce que comment, par exemple, Xavier Bertrand, ministre de la Santé.
Là, on est en 2010, je crois.
Ouais. Xavier Bertrand, 2011, quelque chose comme ça. Bref. Xavier Bertrand, ministre de la Santé, ferme des lits, mais alors, à grande brassée, partout. Et quand le mec se présente aux élections présidentielles il y a quelques années maintenant, là, la dernière fois, face à Emmanuel Macron,
ouais.
Et il te dit qu'il va restructurer l'hôpital public, ouvrir plus de 110 000 lits. Mais attends, mon garçon, si tu veux les ouvrir, pourquoi tu les as fermés? Non, mais la réalité, elle est là. C'est pour ça que tu peux pas engueuler Pierre-Paul Jacques, t'as vu de dernière, mais vous êtes tous responsables, en fait.
Donc le principal artisan, ce serait Xavier Bertrand, que t'as cité.
Ah non, mais c'est un exemple parmi tant d'autres.
Ah, c'est un exemple parmi tant d'autres.
C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais, de toute façon, du moment, je pense, sincèrement, je sais pas à quel moment c'était, parce que je suis pas pointu là-dedans. Je pense juste à une chose, je me dis juste que l'hôpital public a commencé à se casser la gueule le jour où on a voulu le gérer comme une entreprise privée, avec des tabloïds, avec des tableaux Excel, avec de la rentabilité, avec du temps de passage. Et ça, c'était la mort. Et c'est la mort encore plus. Regarde, aujourd'hui, avec le Covid, ça a complètement tué le service public.
Ouais, mais
parce que les soignants se sont rendus compte qu'ils étaient l'abnégation sur lequel se posait la sécurité, entre guillemets, de beaucoup de, pendant des années, les directions se posaient là-dessus en se disant, nous, nos soignants, ils aiment leur métier, ils nous font pas faux bon. Le problème, c'est que ça, c'est fini.
Mais le sens de ma question, c'est est-ce que, par exemple, il y a eu une volonté, tu dirais, manifeste de tuer l'hôpital public ou c'est quelque chose qui est venu conjoncturellement pour répondre à quelconque obligation?
Non, ça s'est fait. Moi, je pense pas que ce soit volontaire. Ça, c'est mon côté un peu fleur bleue. Je pense pas que ce soit volontaire. Je pense juste que on a pris des mauvais choix au moment. Et on s'est pris en pleine face toute cette réalité au moment du Covid. On s'est pris en pleine face déjà la souveraineté médicale de notre pays.
Ouais.
On ne produit pas. On ne produit plus de gants, on ne produit plus de masques. Tout ça vient de l'étranger. Et là, on s'est retrouvé sans rien. Tu vois le truc?
Ouais.
À quel moment la France, c'est quoi? On est la quatrième, troisième puissance mondiale?
Oui, ça doit être quelque chose comme ça.
Voilà. Tu te rends compte? On a été récupérer dans les magasins de bricolage les masques pour poncer. On a été récupérer les blouses des vétérinaires pour aller faire des touchés anneaux, aller chercher les bestioles au fond des vaches pour se protéger. On a été acheter de la bâche où on a coupé même des soignants. Moi, je l'ai vu. On a même ouvert des sacs plastiques pour les mettre sur nous, des sacs poubelles.
C'est justement en fait.
C'est pas le tiers monde, mais à un moment, faut se poser des vraies questions.
Mais c'est justement en fait ce qui est pour moi, à mon sens, symptomatique de la société hyper mondialisée, hyper capitalisée. C'est-à-dire que on fait produire ce dont on ne produit plus chez nous, des produits à plus faible valeur ajoutée, des pays tiers, supposément, encore que maintenant on peut en discuter, mais supposément à une époque moins développée. Et quand ce modèle marche bien, quand il n'y a pas un rouage qui va faire tout péter le truc, ben on peut dire il n'y a pas de problème, alléluia. Simplement, arrive un moment où il y a quelque chose qui arrive et on se dit, on ne produit plus rien.
C'est-à-dire
qu'on a tout délocalisé.
Et si tu veux, de voir tout ça, moi, se casser la figure sous mes yeux, m'a profondément attristé. Et effectivement, donc d'être soignant, donc je ne pouvais plus travailler à cause de mon dos. J'ai fait une reconversion pour travailler dans un service de logistique toujours à l'hôpital parce qu'il y a toujours cette idée de travailler dans la fonction publique en fait.
Ouais.
Et puis en fait, tout ça, ça me convenait plus. Donc autant arrêter.
T'es parti quand?
Alors, je suis parti quand là, tu fais du off. Ouais. Je suis toujours pas parti parce que techniquement, là, c'est bientôt.
Ah bah oui, c'est vrai.
Donc, en fait, je suis pas parti quand. C'est là, tu peux reprendre l'enregistrement, ça ne dérange pas. C'est de dire, je suis parti parce que malheureusement, ma santé physique s'est dégradée.
Ouais.
Spontanément et encore plus l'an dernier, où j'ai vraiment eu là, ce coup-ci, des douleurs neuropathiques très importantes. Et en fait, c'était plus possible. Mon corps ne pouvait plus travailler à l'hôpital et de ce fait, on a découlé un burn-out en fait. Parce que c'était trop pour moi, tout des années d'hôpital, c'était trop.
Et donc là tu commences en fait à émerger du burn-out. Comment tu te sens actuellement?
Aujourd'hui, je me sens mieux. Je me sens mieux parce que il y a des choses qui se sont mises en place et que j'avais aussi besoin d'évacuer parce qu'il y a des années de plein de choses accumulées qu'ont dû sortir en fait. C'est pas le burn-out, le burn-out professionnel. Alors il peut arriver certainement très rapidement, mais il peut aussi
s'étaler sur un peu.
C'est ça. Il peut comment dire c'est comme un feu de forêt. On a acheté un mégot. Ça va pas brûler d'un coup, ça va se consumer gentiment, tout doucement. Un feu, tu vois, comme un feu dans une maison qui est dans les combles. On va pas le voir tout de suite, mais c'est un peu ça en fait. Et ça fait des années que ça dure. Et moi, c'est vrai que mon seul échappatoire à tout ça pendant ces années d'hôpitaux, et en tout cas ces 5 dernières années, c'était de produire du contenu sur Instagram. Parce que j'aimais ça, parce que ça me passionnait, parce que les familles me suivaient de plus en plus et que je trouve un intérêt à faire ça. Intérêt que je ne trouve plus à travailler à l'hôpital.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on te souhaite?
Qu'est-ce qu'on me souhaite? C'est de faire ce que j'aime.
Tu arrives à en vivre?
De ne plus être malheureux. Pas encore.
Pas encore.
Surtout, ce que je veux, c'est ne plus être malheureux. Ne plus être triste pour un travail. Ça, c'est toi, par exemple, pour mes enfants. Aux yeux de mes enfants, c'est important. Ma fille qui me dit, pourquoi tu ne travailles plus à l'hôpital? Et je lui dis, parce que je suis malheureux. Et je trouve que c'est important de lui dire et qu'elle comprenne que
on a le droit d'être malheureux.
On a le droit d'être triste, même si on n'a pas papa. On a le droit de pleurer. On a le droit de d'expliquer ses émotions. Et c'est surtout qu'on a le devoir presque de lui dire regarde ce qui se passe quand tu es dans une situation qui ne te convient pas. Ne reste pas dedans parce que tu penses qu'il y a une sécurité. Parce que je vais pas te mentir, de quitter la fonction publique hospitalière,
ça fait peur parfois.
Ça fait peur. Moi, je n'ai connu que ça. Je suis pas quelqu'un qui ait connu. J'ai jamais connu Pôle emploi. J'ai jamais connu le privé. Je sais pas ce que c'est. Et je me dis, demain, c'est ce qui va m'arriver. Et tu vois, c'est un peu saut parachute avec le parachute, mais tu sais pas où est le truc pour tirer dessus. Ouais. Ça, c'est un peu chaud.
Donc, dans le prolongement de ma question, j'imagine que tu te vois vivre de la création de contenu, faire des conférences.
Des conférences, je commence à en faire.
Ouais.
Je commence à en faire. Alors, c'est des conférences toujours sur des sujets que je maîtrise maintenant. Alors bien sûr, c'est en règle générale sur le rôle du père, sur l'accompagnement dans l'allaitement.
On va pas te demander de faire des conférences sur les jeux vidéo.
Non, pas du tout. Alors je fais quand même de plus en plus de conférences. Alors principalement pour des structures publiques. Donc ça, c'est plutôt cool.
Ouais.
Parce que maintenant, il y a aussi des mairies qui prennent aussi, entre guillemets, leurs responsabilités et qui se disent, on a aussi un devoir d'un point de vue familial, aussi d'apporter quelque chose, bah, toutes les familles qui sont là. Et donc, il y a des conférences. Je fais de la production de vidéos pour France Télévisions. Et puis, il y a aussi sur Instagram, il y a aussi des entreprises qui me contactent pour que je puisse travailler avec eux. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir déjà travaillé avec l'Organisation Mondiale de la Santé sur un sujet qui me tient à cœur, c'est sur les pathologies psychiques en période périnatale. Alors ça va de la dépression du postpartum à la dépression autant féminin que masculin. Ça va de plein de choses en fait, voilà. J'ai pu travailler aussi avec l'Agence de la biomédecine où on a parlé de par exemple toi du don de gamètes, des choses comme ça. C'est toujours, alors moi je choisis toujours avec qui je travaille.
Oui, on y reviendra.
Tu sais, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est Alexandre Astier un jour dans une interview.
Ouais.
Et qui a dit à un journaliste, moi j'ai un luxe que je me paye, et moi je veux dire, je suis un peu comme lui, je ne bosse plus avec des connards. Mais c'est fini, moi je bosse pas avec des connards. Donc si une entreprise qui me contacte et qui veut bosser avec moi, ça me plaît, je le fais, ça me plaît pas, je le fais pas.
Mais justement, alors, tu m'offres une transition toute trouvée, parce que c'était
elle est formidable, ta transition, t'as vu ?
C'était la dernière partie, t'es merveilleux, franchement. c'est la dernière partie de... Parce que je dois regarder vite fait. Oui, carrément, oui, 41 minutes, oui, c'est la dernière partie de notre entretien. Sur justement le volet réseau social,
oui.
Tout ce qui est activité des réseaux sociaux, c'est des questions que je pose tous les créateurs de contenu et créatrices de contenu que je croise. Tu évolues, tu dirais... alors. Première question là-dessus, plus ciblée pour toi peut-être. Est-ce que forcément, quand on est papa et qu'on évoque ce genre en fait de thématique, donc on peut considérer comme un domaine, on pouvait considérer comme un domaine exclusivement féminin, ou est-ce qu'on reçoit parfois des commentaires malveillants ? Est-ce que tu as beaucoup de haters, comme on dit ?
Alors, j'ai pas beaucoup de haters. J'aime bien quand tu parles anglais, ça me plaît. Non, je n'ai pas beaucoup. Déjà, j'ai la conscience d'une chose, c'est que ce que je produis, une femme le produirait,
oui.
Elle n'aurait pas autant d'abonnés. Elle y aurait presque quasiment aucun intérêt.
Oui.
Parce que, voilà. Et donc, j'ai cette chance, peut-être cette force de me dire, je représente la parole d'un père dans une audience qui a plus de 95% de femmes.
Oui.
Donc là, je dis pas que je leur donne ce qu'elles veulent entendre, pas du tout. Il y en a qui le font très bien sur Instagram.
Oui, bien sûr.
Il y a des mecs sur Instagram qui produisent du contenu pour les familles comme moi,
ouais.
Et je pense qu'ils donnent aux femmes, aux épouses ce qu'ils veulent entendre. Moi, pas du tout. Alors non, j'ai pas beaucoup de haters parce que d'abord ce que je produis, j'essaie de le produire en toute bienveillance, et c'est surtout que j'essaie de mesurer les mots que j'utilise. Parce que on aurait vite fait de se faire tomber dessus par une compagnie de féministes armées de carottes qui est prête à te trancher le cœur. Moi, ça m'est arrivé une fois, je ne sais pas pourquoi exactement, j'utilisais le terme papa laitant. C'est-à-dire que pour parler d'un père qui accompagne l'allaitement, c'était commun d'appeler quelqu'un qui s'appelle papa laitant. Et un jour, je sais pas pourquoi, il y a un groupe de féministes qui m'est tombé sur la gueule en me disant, alors tu veux un cookie? Alors moi, au début, je sais pas ce que ça voulait dire. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il veut un cookie, le monsieur? Non, je savais pas. Alors, au début, j'ai dit non, j'ai pas faim. Et après, j'ai compris. Et en fait, non. L'idée du dad blessing, c'est ça, en fait. L'idée du dad blessing, c'est de se pavaner, de dire qu'on est meilleur que tout le monde et qu'on apporte quelque chose en plus. Et qu'une fois que t'as compris ça, tu le fais plus. Et moi, je ne le fais plus. Et si je le fais, c'est dans l'autodérision. La plus profonde. Et la plus grande possible.
Parce que t'as un sacré brin d'humour et une sacrée herbe,
Parce que tu vois, un de mes posts préférés que j'ai fait une fois, j'ai repris les messieurs, madame.
Ouais.
Et j'ai fait que des messieurs, mais que des messieurs avec des gros clichés. Genre, monsieur, oh bah tu m'as pas demandé pour mettre la table. Monsieur, c'est quoi le nom du pédiatre déjà? Ou monsieur, ah, t'as vu, chérie, j'ai passé aspirateur aujourd'hui, je veux une médaille, tu vois. Là, on est dans le profond, on est dans les méandres, si tu veux, du dad blessing. Et là, en fait, plus c'est gros et mieux ça passe finalement. Mais de toute façon, moi, l'idée, c'est que tout ce que je produis, faut qu'il y ait une touche d'humour.
Oui, comme ça, ça passe crème, mon dieu.
Ça passe crème. Grave. Parce que les gens ont besoin de ça. Et parce que, au pire du pire, si ça se passe pas bien, je pourrais toujours me cacher derrière. Donc non, j'ai quasiment pas de haters. La seule fois où j'ai vraiment une nana une nana cinglée, qui m'en a foutu plein la tronche parce que je donnais de la viande à mes enfants. Je pense que pour moi, le pire ennemi du féminisme, c'est la femme elle-même. Il y a des femmes qui s'auto-détruisent entre elles.
C'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire que, par exemple, tu vois, moi, je me considère pas féministe.
Ouais.
Je me considère rien du tout, d'ailleurs. Je me considère comme quelqu'un qui aime bien manger de la viande et boire du vin de temps en temps, qui essaye d'accompagner au mieux ses enfants et d'être un mari aimant et un père aimant aussi. Mais oui, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je produis, on va pas se mentir, la femme, la mère est au cœur du sujet, puisque je parle du sujet parental.
Bien sûr.
Donc, je mets très rarement en avant le rôle du père, c'est plus souvent le rôle de la mère. D'ailleurs, pour tout ce que je produis, que ça soit de l'écrit ou de la vidéo, c'est que derrière, c'est, nous, on apporte un soutien, on apporte une aide, on est un allié, on est plein de choses. Mais finalement, le cœur, c'est ça. Et c'est pour ça que des fois, quand je vois des femmes créatrices de contenu qui se font casser la gueule par des femmes elles-mêmes, je me dis, mais vous êtes complètement cinglés, quoi, les gars.
Mais c'est ce que beaucoup de femmes disent, d'ailleurs, que le pire, souvent, en fait, ils le disent souvent dans l'amitié entre filles, surtout quand on est dans un jeune âge, c'est la concurrence entre elles.
Et puis, alors, expérience personnelle, j'ai travaillé quand même 14 ans à l'hôpital,
ouais,
avec que des femmes.
Ouais.
Il n'y a rien de pire,
oui,
que les filles entre elles.
Je suis d'accord.
Attention, je suis pas en train de balancer un truc.
Non,
je dis juste ce que moi j'ai vu pendant des années.
Il
y a pas, c'est pas un scoop. Moi, je me considère. Alors c'est pour ça que j'évite aussi de faire de la politique, même si je me suis retrouvé dans mon parcours à participer quand même à l'allongement du congé paternité, ce qui m'a amené à travailler avec des politiques. Mais en règle générale, non, je prends pas position.
Ouais, mais c'est justement en fait ce qui est très compliqué dans la société d'aujourd'hui.
Oui.
D'où le sens de ma question, c'est que. On fait forcément de, sans le vouloir,
ah bah
aujourd'hui,
oui,
tout sujet,
ah bah,
est politique.
Évidemment.
Donc, moi, de ce qu'on m'a dit, si pareil, je fais de la politique, absolument, je m'en défends, mais apparemment, dans la société actuelle, tu fais de la politique, je fais de la politique, tu fais de la politique. Comment tu réagis vis-à-vis de ça, toi?
Alors, moi, je réagis. Alors, déjà, je parle très peu de politique, même sur des sujets d'actualité qui me font réagir personnellement. J'en parle jamais sur Instagram.
Mais ton sujet est hautement politique.
Mais mon sujet est politique.
Ah
ben mon sujet est très politique et il touche quand même à quelque chose de particulier. Il touche la famille. Donc il touche pas non plus. Il touche quand même une grande partie de la population. C'est-à-dire dans mes engagements sur les réseaux sociaux, parce que je fais pas que de la création de contenu, je suis pas que un influenceur pour certains. Je suis aussi quelqu'un qui est engagé pour rencontrer des gens, pour rencontrer des ministres, rencontrer des parlementaires. Pour leur exposer différentes thématiques, toujours autour de la famille. Mais moi, ça me dérange pas d'aller les voir, d'aller à leur contact. Et c'est pas parce que, par exemple, Aurore Berger a décidé, je sais pas, un jour de me parler sur Instagram et de venir échanger avec moi, que je suis forcément En Marche ou macroniste ou ce que tu veux. Non.
Oui.
Il y aurait quelqu'un de la NUPES qui viendrait me parler, j'aurais le même discours.
Oui.
Est-ce qu'il serait aussi bien construit? Je ne sais pas. Mais j'aurais le même discours. C'est juste de me dire, je fais pas de politique. Je me dis juste, c'est que moi, ma politique à Frédéric Fourillon, c'est la politique de la famille et une vraie politique de la famille. Une politique de changements cruciaux pour notre pays.
Qui n'a pas de tendance de gauche ou de droite?
Non, je pense pas. Je pense pas que ça soit de la gauche ou de droite, ni du milieu. Il y aura pas d'extrême, ça c'est sûr.
Oui.
Parce que je suis pas dans les extrêmes, même pour mes choix personnels et mes décisions personnelles. Je veux juste une chose, c'est que les familles soient mieux considérées dans notre pays. Et toutes les familles. Parce que on a tendance à mettre toujours en lumière les familles classiques, papa, maman, les deux enfants, le truc classique qu'on a dans toutes les stats de tout ce qui peut exister. Non, non, l'idée, c'est de parler de tout le monde. De parler des familles homoparentales, des parents qui sont seuls, des parents qui ont perdu un enfant, qui ont perdu un conjoint, des gens qui ont décidé d'adopter, qui ont décidé de faire une PMA. Enfin, tu vois, c'est large, en fait. C'est large.
En fait, pour moi, c'est aussi un petit peu combattre cette version un peu réductrice de la famille. Alors moi, j'ai ce truc, je veux te faire réagir à cet exemple-là, et c'est TF1 qui garde, en fait, ce moyen de mesurer l'audience, on appelle la ménagère de moins de 50 ans responsable des achats. C'est un truc
Tu sais, moi, quand j'entends ça me fait rire.
Ah oui.
Parce que, par exemple, tu vois, chez moi, ma femme ne fait pas les courses. Elle ne fait pas les courses, elle fait pas la gestion de ce qu'il y a dans les placards, de ce qu'on va manger, parce que c'est moi qui le fais, parce que d'abord j'aime bien.
Ouais.
Et c'est pour ça que quand j'entends ça, je me dis, oh putain, on est toujours là-dedans, quoi.
Ouais, ah oui, mais voilà. Il y avait un youtubeur d'extrême droite, Stéphane Edouard, qui disait que, malheureusement, même si on veut essayer de gommer toutes sortes d'inégalités, en fait, le commerce, lui, ne se trompe pas.
Ah oui.
Et dans ce sens-là, malheureusement,
il y aura toujours des inégalités.
Ouais.
Et qu'importe ce que l'on décide ou ce que l'on fait, il y aura forcément quelqu'un qui dira, bah oui, mais moi, j'y ai pas le droit ou, moi, je fais pas partie du truc. Et c'est vrai que c'est très frustrant. Pour, par exemple, pour les congés parentaux, sur le sujet sur lequel je suis souvent engagé, on est sur des inégalités parce que, par exemple, tu vois, oui, j'ai participé au débat, j'ai participé à l'élaboration du congé paternité qui a évolué en 2020. Mais notre parole n'a pas été plus écoutée que ça, finalement. Et c'est assez triste parce que le gouvernement, lui, se pavane en disant c'est une révolution, maintenant les pères ont le double. Mais attends, si on revient un petit peu en arrière, je vais te faire un cours, c'est très court comme cours d'histoire, attends, c'est très rapide. Les pères ont eu le droit à des congés parentaux le lendemain de la libération, à peu près, on va dire, allez, en 1946.
Oui.
En 1946, on a dit aux pères, alors certains pères, hein, parce que c'était pas tous, hein, la fonction publique, les employés d'usine, ça, vous avez le droit à 3 jours. 3 jours de congés parentaux, ça plaît. Et entre 1946 et 2010, il n'y a eu aucun changement. Il a fallu attendre, à partir de cette période-là, à avoir un congé parental de 11 jours, et il a fallu attendre 10 ans après pour évoluer et en avoir 28. Et nous sommes à la ramasse complète.
Par rapport à nos pays scandinaves,
pas besoin non plus. En Espagne aussi, on est à la ramasse par rapport à l'Espagne, au Portugal, qui eux ont un sujet qui est beaucoup plus évolué. C'est très représentatif de notre pays. On a demandé à un grand collège de professionnels de la périnatalité, de la famille, présidé par Boris Cyrulnik, tous les professionnels choisis, je les ai trouvés formidables.
Oui.
Le rapport des 1000 premiers jours est génial. Ce qu'il y a dedans, c'est un dossier. Il n'est pas complet à mon juste avis, mais ce qui par exemple pour le congé parental, eux préconisaient un congé de plus de 9 semaines. Et nous, on a eu quoi? Bah le double. Donc on a eu 28 jours. C'est un mois. Ah, c'est un mois.
Oh.
Donc non. Donc quand moi, je me souviens, j'ai été interviewé par plein de médias. Je suis passé sur RTL, France Bleu, plein. On me disait ah c'est vraiment une révolution. Je dis non. On est sur une évolution, mais alors une toute petite évolution. C'est tout.
C'est comme ça que marche la communication. C'est-à-dire que...
C'est comme ça que marche la communication. C'est comme ça qu'est construit notre pays. Alors moi, j'applaudis toutes les initiatives qu'on met en avant tout le monde. D'ailleurs, moi, je suis un des rares qui utilise jamais le terme congé paternité, mais qui dit toujours congé paternité et accueil de l'enfant. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a des gens qui adoptent des enfants, qui accueillent des enfants, qui ont droit aussi à ces congés-là. Mais une fois de plus, alors ils sont compris dedans, si ils ont, mais c'est juste qu'on n'en parle pas encore. Et des invisibles, alors ce sont des invisibles, il y en a plein.
Je
crois que c'est le sujet, un sujet que tu connais bien, les invisibles.
Oui, c'est un sujet qu'on connaît bien et qu'on développe régulièrement.
Voilà.
Sauf
qu'en fait, en invisibilisant, qu'importe les personnes, que ce soit des personnes handicapées ou des personnes dans des situations qui ne seraient pas conventionnelles ou classiques dans notre pays, je suis pas d'accord avec ça, moi.
C'est-à-dire que malheureusement, et c'est tout le nœud du problème que, dans le fond, même nous, on n'a pas résolu. C'est comment on arrive à faire de la communication, c'est-à-dire quelque chose qu'on jette, qui est visible, des personnes qui ont la coutume, en fait, de ne pas l'être, soit par convention ou par culture, ou soit parce qu'il y a beaucoup de ces personnes qui, et c'est leur droit, hein, veulent rester discrètes et ne pas exposer leur combat.
Oui, et donc, après, peut-être qu'il y a des gens pour qui ça ne choque pas le fait qu'on ne dise pas, par exemple, le terme complet congé paternité et accueil de l'enfant. Mais je sais qu'il y a des gens, même s'ils ne militent pas, même s'ils sont pas, rien que de l'entendre, ils disent, ah, on est dedans.
Oui, c'est tout le caractère, en fait, de ce pour moi manque encore à notre société, c'est de l'inclusif, en fait.
Ah, c'est l'inclusivité.
C'est la totale inclusivité, en fait, que on se bat pour ça, c'est ce qu'on recherche. Est-ce qu'on l'atteindra?
Je pense pas.
Non.
Je pense pas. Regarde, alors, je te donne un exemple très simple qui est très rapide. Moi, l'écriture inclusive, je comprends rien, j'y arrive pas, j'ai essayé. Je peux pas. Alors, est-ce que c'est, quelqu'un me dirait, soit il fait pas d'efforts, ou alors, oui, il a raison, il s'emmerde pas avec ça. Ça, c'est au choix de chacun. Mais j'y arrive pas. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Par contre, que, par exemple, des communes aujourd'hui installent des aires de jeu et qui pensent pas à mettre une balançoire pour un enfant handicapé, ou un accès qui est difficile pour quelqu'un qui a des difficultés à la marche. Et ben là, je me dis, non, là, vous avez pas le droit. Pas aujourd'hui. Plus maintenant.
Pas aujourd'hui.
Vous n'avez plus le droit de faire ça.
Mais c'est ce que je reçois parce que d'ailleurs, ça m'a touché. J'ai lancé un appel dernièrement des créateurs et créatrices de contenu. En particulier dans tout ce qui est le secteur du voyage, quand on met en valeur des restaurants, des visites touristiques, etc. de pouvoir mentionner, en fait, si les visites ou les lieux qu'elles allaient visiter, qu'il ou elle allait visiter, sont accessibles ou pas aux personnes en situation de handicap ou ayant tout type de difficultés. Quelques personnes m'ont répondu « Ah, mais bonne idée ! On n'y avait pas pensé parce qu'on n'est pas concerné. » Et en fait, c'est exactement tout le nœud du problème.
C'est ouf.
C'est-à-dire que tant que tu n'es pas concerné par un problème, en fait, bah, ça invisibilise un nombre colossal de personnes.
C'est ça. Tu vois, moi, je fais partie de l'organisation du Salon des parentalités de Rouen, qui a lieu le 10 et 11 février 2024, pour la quatrième édition au Salon des, à la Halle aux Toiles. Et tous les ans, il y a un logo différent. Il y a un dessin qui est fait pour l'affiche. Et cette année, quand l'affiche a été décidée de faire avec l'illustratrice, j'ai rajouté une idée. J'ai dit, pourquoi parce que sur cette affiche, il y a plein de choses. Il y a des parents, il y a des grands-parents, il y a des couleurs de peau différentes, c'est bien. Là, on commence à être dans l'inclusif, c'est génial. Et j'ai dit, on pourrait aller encore plus loin. J'ai dit, toi, il y a un petit garçon sur le côté, là. Bon, c'est un petit garçon. Ben, j'ai dit, mets-lui un implant cochléaire. Détail qui pourrait être presque infime, finalement, sur une manifestation comme celle-ci, dire, ouais, c'est juste un dessin. L'affiche est sortie, c'est la première chose qu'on m'a dit. On m'a dit, c'est génial. Okay. On sent que tout le monde est inclus maintenant.
C'est ça.
Pour un implant cochléaire. Et c'est pas c'est, et ça on l'a pas fait en se disant on va toucher une partie de la population et ouais. Et ça va faire parler. Non, c'est juste de se dire mais tout le monde a le droit d'être là en fait.
Merci Frédéric.
Merci Brian.
C'est un énorme plaisir.
Brian, même si tu m'as pas accueilli dans ta kitchen, je suis content d'être intervenu.
J'ai même pas de tablier.
Non, tu as même ça pas. Non, mais je suis presque déçu. Mais c'est pas grave, je me ferai l'idée.
On essaiera de faire
heureusement,
mieux.
Heureusement, le podcast, ce n'est que de l'audio, il n'y a pas de vidéo.
Ça, on essaiera de faire mieux la prochaine fois.
Promis.
Pour la sortie de ton. Merci Frédéric.
Merci à toi.
À une prochaine donc.
Avec plaisir.
Et on se retrouve pour un nouvel épisode. Bientôt du podcast Normand. Salut.
Hop, ne partez pas les amis, j'ai encore une dernière chose à vous dire. En fait, il y a un sujet que l'on n'a pas abordé avec Frédéric car c'est un sujet d'actualité et les derniers chiffres nous sont parus après notre enregistrement. Il y a actuellement en France une forte baisse de la natalité de 7% sur le premier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022. Et c'est le chiffre le plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors naturellement, j'ai demandé à Frédéric de nous donner bien volontiers son opinion sur le sujet.
Salut Brian, alors je vais répondre à ta question. Pour moi, il y a plusieurs éléments. Le premier est un élément économique. Clairement, un enfant coûte de l'argent. Le ministère des Solidarités et de la Santé a fait une estimation là, il y a peu de temps, qui estime un coût de 9000 euros par enfant sur une année. Donc si tu fais un calcul de 0 à 18 ans, on frôle les 180 000 euros. Donc forcément, à l'époque où on est, ça pose des questions. L'époque où on a des grandes familles nombreuses est presque révolue, puisque maintenant c'est presque un choix. Il est rare que ça soit par hasard, puisque maintenant entre les protections, le quoi se protéger sexuellement, l'éducation sexuelle, mais aussi le choix à l'avortement, de garder ou non un enfant. C'est vrai que tout ça, ce sont des éléments, tout ça est à mettre bout à bout finalement. Mais effectivement, d'un point de vue économique, il est vrai que économiquement parlant, avoir un enfant donc coûte de l'argent. Donc c'est vrai que quand on sait ça, il y a des familles qui font le choix, alors soit d'avoir un seul enfant, alors la politique de l'enfant unique made in China, mais on n'en est pas loin. Et puis il y a ceux aussi, et puis avec il y a aussi les mœurs qui évoluent. Il y a aussi des couples qui décident de ne pas avoir d'enfant. Voilà, il y a des gens qui décident dans leur vie de se dire non, on ne veut pas d'enfant. Par plusieurs principes. Alors il y a le principe économique, ça on en a parlé. Après il y a le principe de éthique et aussi il y a aussi une question de choix personnel. Maintenant les femmes ont vraiment, enfin, elles ont le choix de leur corps, de ce qu'elles en font, et donc si elles n'ont pas envie d'avoir d'enfants, eh bien, elles n'ont pas d'enfants, et ça, c'est respecté de plus en plus, donc voilà, effectivement, ça, c'est aussi un autre point qui fait que ça réduit. Et après, pour moi, il y a un dernier élément qui rentre en compte, c'est l'élément plutôt de responsabilité de chacun. Il y a des gens qui se disent non, notre planète ne peut plus accepter autant d'humains d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, d'un point de vue éthique. Il y a tout ce qui se passe dans le monde. C'est vrai qu'il y a, un rapport au contexte actuel, les guerres, les maladies, tout ça rentre en compte. Et c'est ça qui fait que ça diminue. Et puis, ce qui fait que ça diminue, ça c'est historique. Là, je n'invente rien. On a eu des pics de croissance après la guerre, le fameux baby boom, mais c'est parce que voilà, on avait eu dans notre pays voilà la guerre, on a perdu des milliers et des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, de civils, et il a fallu repeupler. À l'époque, la politique était comme ça.
J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, tu peux retrouver Frédéric sur son Instagram @vieuxmachinbidule. À dans 2 semaines, prenez soin de vous.